Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette conférence qui est la dernière du cycle pour cette année. Rassurez-vous, ça reprendra à la rentrée, bien sûr. Donc, c'est un cycle de conférences qui est organisé avec Anne-Cécile Guilbard et le Master Littérature et Culture de l'Image, voilà, de l'Université de Poitiers. Et donc, ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Christian Cojol, qui a notamment fondé l'agence Vue. Je vous montre le livre de la photo tech de Actes Sud, voilà, que vous pouvez vous procurer. Et ce soir, il va parler de circonstances particulières, revenir un peu sur son autobiographie et puis notamment présenter des photographes avec lesquels il travaille. Je laisse Anne-Cécile pour une plus ample présentation. Et puis, comme toujours, nous aurons un temps d'échange avec vous. Bonne conférence.
Merci, Héloïse. Bonsoir à tous et à toutes. C'est en effet un très grand honneur pour nous de recevoir Christian Cojol ce soir, parce que c'est non seulement quelqu'un qui travaille avec des photographes, c'est-à-dire qui sait regarder des photographies, qui sait distinguer des œuvres, qui sait les passer, qui sait les transmettre. Et c'est aussi, je le dirai à la fin, c'est aussi quelqu'un donc, qui a fondé l'agence Vue, comme Héloïse le disait, qui a travaillé à la rédaction du journal Libération, dont la grande et belle tradition d'usage de la photographie reste, malgré la concurrence du monde aujourd'hui, la plus importante des quotidiens français aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, donc je le disais, a travaillé à faire connaître des œuvres de photographes, alors par le biais de commissariats d'exposition nombreuses. Une des dernières, d'ailleurs, c'était au château de Tours. Je ne sais pas si vous êtes allé voir l'exposition Daniel Boudinet, qui est un grand photographe important et que grâce à lui j'ai oublié le nom de la co-commissaire, Mathilde Felguière, on a pu découvrir de manière grâce à une rétrospective. Et ce sur quoi je voulais terminer, c'est que c'est pas seulement un regard et un passeur, c'est quelqu'un qui travaille aussi sur le rapport entre photographie et donc image, esthétique et politique. Il y a là une dimension qui est indispensable lorsqu'on travaille sur la photographie, étant donné son rapport à la réalité. Alors vous me direz, c'est pas le seul rapport que la photographie peut entretenir avec d'autres choses, mais c'est un rapport essentiel. Et c'est avec un nombre considérable d'articles que j'ai malheureusement pas tous lus, mais quelques livres, Circonstances particulières, volume 1 et volume 2, qu'on peut voir cette approche, qui est une approche à la fois exigeante et sensible à l'égard d'images qui sont aussi celles par lesquelles nous avons un rapport au monde et à l'égard desquelles il faut donc avoir un regard attentif, et c'est une écriture aussi qui permet cela. Et voilà la raison pour laquelle je suis si heureuse et j'espère que vous partagerez mon bonheur de recevoir Christian Cojol ce soir.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, très rapidement, comme ça, pour rebondir sur ce que vous venez de dire trop gentiment, juste pour me présenter, je ne suis pas quelqu'un qui vient du monde de l'image. J'ai la chance, je dis toujours, pour provoquer les photographes, de ne pas faire de photos. Par contre, je me suis toujours poser la question de savoir ce qu'elle représentait, parce que ce sont des pièges, et il n'est pas évident qu'elle représente ce que nous voyons, soit à quoi elle pouvait servir. Elles peuvent servir à mille choses pour une raison très simple. Réfléchissez une seconde, la même image photographique en quart de page dans un quotidien ou en 7 mètres par 3 dans la rue ne va pas nous dire, si on sait qu'elle parle, la même chose. Simplement pour une raison extrêmement simple. Hein. Une photographie, contrairement à ce que nous croyons, elle est terriblement imprécise et elle est absolument subjective. Si on veut être un peu sérieux, une photographie, ce n'est rien d'autre qu'une organisation de formes dans un rectangle ou dans un carré. C'est pas autre chose au départ. Après, cette image, elle n'est pas capable de nous donner d'informations par elle-même. Elle nous en donne une qui est essentielle. Elle nous dit « je suis une photographie ». Ça veut dire que je ne suis pas un dessin, je ne suis pas une peinture, je ne suis pas un photogramme. Donc ça veut dire qu'elle entretient une relation très particulière avec la réalité. Ça veut dire « je suis une photographie » signifie qu'avant qu'existe cette image et pour qu'elle puisse exister, il a fallu que quelque chose d'autre exista dans le monde en trois dimensions. Et mieux, et ça c'est Barthes qui l'a merveilleusement écrit, cette photographie nous dit « l'instant où j'ai été prise n'existe plus et il n'existera plus jamais ainsi ». C'est donc cette étrange fabrication d'un temps qu'on ne sait pas définir, d'une part le prélèvement de 1/125 de seconde, et puis cette espèce de versement à une éternité dont on ne sait pas ce qu'elle est, qui va faire continuer à exister sous forme d'image quelque chose qui n'existe et qui n'existera plus. Ça fait partie des choses qui me fascinent dans la photographie, et certainement de l'intérêt que je continue à avoir pour la photographie. Alors, cet intérêt, il s'est manifesté de plein de manières. Ça a été d'abord quand j'ai pris conscience que c'était avec le mode d'utilisation des images photographiques que l'on produisait du sens. C'est ce que j'ai fait à Libération. La façon de choisir des photos, la façon de les publier, décider qu'il fallait qu'elle soit sur 4 colonnes et refuser qu'on la publie sur 2, c'était produire du sens. Ce n'était pas faire de la décoration. Ça a été un apprentissage. Et cet apprentissage, il m'a amené à travailler avec des photographes. Et ces photographes, c'est d'eux que j'ai appris, par exemple, ce qu'il y avait de fondamentalement différent dans la lumière, dans les choix de lumière entre le noir et blanc et la couleur, ce qu'il y avait de fondamentalement différent dans le choix du format carré ou du rectangle, qu'est-ce que signifie un panoramiste, etc., etc. Toutes ces questions m'ont aussi amené à essayer d'accompagner le travail de ces photographes. J'ai eu la chance, privilège de l'âge, de connaître, à part Walter Evans, tous les photographes qui ont été les fondateurs de la photographie moderne. La chance de faire un film sur Cartège, par exemple, ou de passer beaucoup de temps avec Cartier-Bresson. Mais j'ai toujours été essayer d'être attentif à ce que proposaient des jeunes photographes et à Libération. Ça ne m'intéressait pas de savoir s'ils avaient une carte de presse, si c'était des photographes dits de presse. Pour moi, ils étaient photographes ou ils ne l'étaient pas. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours la même attitude. Le travail de Cartier-Bresson m'intéresse autant que le travail de Bernard Faucon. Simplement parce que les deux ont leur propre cohérence et ont la logique d'un travail de création. Point. Le reste, c'est des questions d'école, de marché, de définition qui ne me semblent pas essentielles. C'est aussi autour de ça que, en 86, j'ai avec Zina Roybach, qui avait été la première gérante de Libération et la femme la plus condamnée de France à ce titre-là, créé l'agence Vue, agence de photographes, pas agence photo, une agence de photographes. Ça voulait dire que chaque photographe était considéré pour lui-même, pour ce dont je vous parlais, pour la cohérence de son travail. Et nous avons été la première agence, ça semble anecdotique, mais à classer les travaux des photographes par nom. Hein, à l'époque de Libération, j'allais à Magnum faire des recherches photos. Il y avait une boîte bébé dans laquelle on trouvait Cartier-Bresson, R8, Pou Delta, Tapa, ça, tout. Ça mélangeait, c'était des bébés. Puis il y avait une boîte mariage, et puis il y avait des boîtes paysage. Non, on n'avait pas ça. On avait les photographes, pour moi, c'était extrêmement important, et ça faisait référence à l'hebdomadaire des années 20-30, qui a été l'hebdomadaire qui a fait passer la presse à la modernité de l'image photographique. Hein, Manet a travaillé pour Vue, plein de photographes des années 20-30, extrêmement important. Je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus. Il y a eu l'agence, ça veut dire travailler avec des journaux dans des conditions difficiles, travailler avec des entreprises pour gagner de l'argent, faire de la communication. Mais on était la première agence à créer un secteur culturel d'exposition itinérante. Ça ne rapportait pas beaucoup d'argent, mais malgré tout. Et puis, Libération allait très mal. Libération a vendu toutes ses filiales, dont l'agence Vue. Mais j'ai oublié de dire que c'était... Vue était une filiale 100% de Libération, hein, même qui n'a pu se créer que grâce à des prêts d'amis, Marcel Lefranc, Pierre Berger, Jean-Claude Gallienne. Sinon, il n'y aurait pas eu d'agence Vue. L'agence a été rachetée par une entreprise d'informatique, l'entreprise Abven, qui fait des logiciels pour architectes. Ça s'est bien passé avec des tensions. L'entreprise Abven m'a permis de réaliser un rêve, qui était d'ouvrir la galerie Vue, boulevard Henri IV, 700 mètres carrés en sous-sol, plus grande galerie photo d'Europe, qui a été bénéficiaire de la première année et qui, certaines années, a comblé une partie des déficits du secteur presse. Voilà, c'était la vie des agences et de la photographie, c'était des mutations. Et puis, je suis entré en conflit, comme ça devait arriver, avec le nouveau propriétaire. Et puis, je suis parti. Et puis, j'ai enseigné, je continue à enseigner. Ça a toujours, j'ai été formé pour enseigner. Et puis, je suis indépendant, j'écris. Et j'organise des expositions, dont un festival à Phnom Penh, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, voilà, ça c'est un peu pour situer les choses, pour lancer des petites pistes de réflexion. Je voudrais, c'est aussi une façon de réfléchir, vous montrer des images, montrer des photos. Alors, en avant-première, hein, c'est un montage qui va être projeté au festival Images singulières à 7, à la fin du mois de mai. Ce sera exactement au moment des 30 ans des événements de Tiananmen. À ce moment-là, à l'agence Vue, nous avions depuis un an des contrats que j'avais signés à Arles avec 6 photographes chinois. Donc, quand il y a eu le début de manifestation place Tiananmen, j'ai décidé de ne pas envoyer de photographes français. Et Léa hasard faisant, nous ayons la possibilité d'envoyer la journaliste de l'agence, Caroline, qui parle du chinois, à Pékin. Elle est partie pour travailler avec les photographes chinois. Et tous les jours, elle donnait un petit paquet de pellicules à des passagers, en général d'Air France. Et tous les jours, j'allais à Roissy récupérer des rouleaux de pellicules et en développer. Et puis sur la fin, nous avons envoyé Manuel Vimnet, qui est là, qui a soutenu tous ses photographes, évidemment, qui a travaillé, placé en Allemagne, lui aussi. Ce que je voulais vous montrer, c'est le travail des photographes chinois. Simplement parce que c'est une chose que j'ai toujours défendue, que je défendrai aujourd'hui certainement encore plus qu'avant. Nous sommes encore à l'époque de l'argentique, hein, mais aujourd'hui je défendrai encore plus qu'avant. Il y a une chose extrêmement choquante et injuste. Après on pourra revenir là-dessus. La photographie a écrit l'histoire visuelle du XXe siècle. Je pense qu'aujourd'hui c'est fini, hein, ça c'est une autre question. Mais cette histoire, elle est signée de photographes américains, britanniques, français, allemands, point final. Or, chaque jour, chaque mois, nous découvrons aujourd'hui des travaux absolument extraordinaires dans tous les pays sur les événements. Et ce regard de l'intérieur est un regard différent, parce qu'il y a une compréhension et une connaissance culturelle qui est différente, parce que quand on parle la langue, quand on appartient à la culture, on peut comprendre des choses que l'étranger ne comprend pas, on peut faire des choses, on peut se mouvoir autrement que le visiteur. Et puis, j'ajouterai juste une chose par rapport à ces photographes chinois. Et elle a été évidemment noyée dans le sang, mais c'était aussi leur révolution. Et ça change certainement des choses. Voilà, ça fait un quart d'heure. Je vous propose qu'on regarde ça. Peut-être que c'est ma lumière ici.
Ils étaient 300 000 aujourd'hui, affirmant « Ceci est un nouveau 4 mai, du nom du premier rassemblement étudiant de l'histoire de la Chine, il y a 70 ans exactement. Les étudiants d'aujourd'hui réclament la démocratie, la fin de la corruption et la reconnaissance de leur association indépendante. »
The biggest student demonstration this week in China was tonight. Tens of thousands of students jammed Tiananmen Square in Beijing, demanding more freedom, just hours before an official ceremony to honor Hu Yaobang. He is the former Communist Party leader and reformist, who is revered by the students, and when he died of natural causes a week ago, these demonstrations began.
Sans trop de mal, les étudiants chinois ont brisé les cordons de police pour envahir la place Tiananmen de Pékin pour la sixième manifestation en trois semaines. Ils étaient 300 000 aujourd'hui, affirmant « Ceci est un nouveau 4 mai, du nom du premier rassemblement étudiant de l'histoire de la Chine, il y a 70 ans exactement. Les étudiants d'aujourd'hui réclament la démocratie, la fin de la corruption et la reconnaissance de leur association indépendante. Ils ont été longuement applaudis par les passants. Et pour la première fois, quelques 300 journalistes de la presse officielle se sont joints aux étudiants pour protester contre la censure et obtenir la liberté de la presse. Pékin se réveille et s'achemine vers une nouvelle journée de lutte
contre le pouvoir. Dans quelques heures, ces rues regorgeront de monde. Chaque jour, les étudiants organisent de nouveaux cortèges, balais incessants qui irriguent la ville sous le regard parfois impuissant de la police. Bravant une fois de plus la loi martiale, ils se dirigent vers la majestueuse place Tiananmen, rejoindre ceux qui ont veillé, près de 200 000 étudiants qui soutiennent les grévistes de la faim.
In meetings with government officials, their demands grew more strident. But after weeks of soft persuasion by moderate officials, the party elders had had enough. The reformist General Secretary Zhao Ziyang made an emotional last public appearance. In a surprise visit to the square, he told students, "We have failed you." And yes, that's Wen Jiabao, China's current prime minister, standing right next to him.
Au fil des heures, certains épuisés par une semaine de jeûne abandonnent, évacués par les étudiants en médecine, organisés, méthodiques. Place Tiananmen, pour les 3000 grévistes de la faim, c'est l'attente, le bras de fer, il faut durer. Le front cerné d'une bande de gaz, prête à être abattue sur le visage en cas d'agression. Ils inscrivent aussi leur slogan, demandent des signatures comme gage de soutien.
The 3,000 student hunger strikers remain at the core of the protest. In the brutal heat, they were collapsing and being rushed off to hospitals every few minutes. But there was no weakening of the protesters' resolve.
Majesté, le portrait géant de Mao Tse-tung qui trône à l'entrée de la cité interdite, éclaboussé de peinture. Les étudiants de la place Tiananmen, qui n'ont jamais contesté l'héritage du grand timonier, flairent la provocation. Ils remettront eux-mêmes les trois coupables à la police.
From expressions of grief, the students moved to demands, including a new appraisal of Hu Yaobang, a free press, and the right to protest. And it was infectious. Workers, civil servants, and others all joined the crowds in Tiananmen. Similar demonstrations broke out in cities throughout China. Domestic media began reporting on the events with unprecedented independence.
As the afternoon wears on here, the crowd gets bigger and bigger, and there are some extraordinary groups lending their support to the students. In the past few minutes, a research group of the State Council, that's the Chinese cabinet, has marched into the square, waving its banners to the applause of many here. So the phenomenon we're witnessing now, as this protest gets bigger and bigger, is that people from the branches of the government itself are joining in, lending their support, hoping that this protest will produce results and begin to implement the kind of genuine reforms, as opposed to cosmetic reforms, that the students want.
Cette nuit, la population gardera à nouveau les rues pour empêcher les militaires d'avancer vers la place. De nouvelles rumeurs d'entrée de l'armée dans Pékin circuleront. D'angoisse en soulagement, cette ville vivra une nouvelle fois sa nuit la plus longue.
Les
Les dernières informations signalaient deux graves incidents au sud et à l'est de la capitale qui auraient fait des dizaines de blessés. À la mi-journée, une cinquantaine de camions remplis de soldats armés descendraient la route de l'aéroport vers le centre de Pékin. Enfin, selon un journaliste du quotidien du Peuple, un étudiant gréviste de la faim serait mort. La dernière image en provenance de Pékin, filmée une demi-heure avant l'entrée en vigueur de la loi martiale, ce matin à 10h. Le premier matraquage de la police contre les étudiants contestataires. Des dizaines de camions militaires stoppés aux portes de Pékin. Cet étudiant implore les soldats de ne pas intervenir en souvenir de la longue marche et de l'unité de l'armée et du peuple. Au lever du jour, on a vu ces images étonnantes. Des dizaines de camions militaires stoppés aux portes de Pékin.
Singing and chanting, a band went by a little while ago playing old marching tunes from the communist guerrilla army of the 1930s.
Dans la nuit de vendredi à samedi, certains ont encore le courage de sourire. La troupe, envoyée par Deng Xiaoping pour dégager la place Tiananmen, est paralysée par la foule qui, toujours mobilisée, ne s'est pas laissée surprendre dans son sommeil. Malgré quelques accrochages, c'est encore le dialogue qui l'emporte. Les soldats, désemparés, battent en retraite. C'est un nouveau camouflet pour Deng. Cette fois-ci, c'en est trop. La statue de la liberté des étudiants a trop longtemps défié le pouvoir. Samedi, le face-à-face est de plus en plus tendu. Les étudiants et la foule ont su, pendant 6 semaines, faire preuve d'une autodiscipline exemplaire. Mais déjà, le bruit court qu'une deuxième vague répressive est envoyée par Deng. Blindés foncent sur l'avenue Chang'an vers la place Tiananmen. Cette fois-ci, les ordres sont formels. Dégagez la place sous peine de cour martiale. Les chars se précipitent sur la statue symbole de la liberté, sur la foule aussi. Certains tankistes, pris de panique, perdent le contrôle de leur véhicule. Les manifestants foudragent, s'acharnent. Le conducteur est emmené. On a retrouvé le corps calciné de l'un d'entre eux, pendu à un autobus.
Tanks rumbled through the streets of Beijing. And in the early hours of June 4th, 1989, the People's Liberation Army opened fire. The Chinese Red Cross initially reported 2,600 people died over the 2 days, later retracted that figure. The official figure stands at 241 dead and 7,000 wounded.
L'armée du peuple a tiré sur le peuple. Le pouvoir a envoyé contre les manifestants des soldats, la plupart paysans de Mandchourie ou d'ailleurs, étrangers à ce qui se passe à Pékin. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Un ordre précaire règne, ce n'est pas le dernier acte.
The most enduring image of Tiananmen is what happened on June the 5th. This lone protester stood defiantly in front of a line of tanks. The world watched and held its breath until onlookers dragged him away. The tank man captivated the world, and to this day, his identity remains a mystery.
Juste deux petites précisions. Vous avez vu du massacre quelques images qui n'avaient jamais été montrées. J'en ai récupéré un certain nombre. Je n'ai pas voulu insister sur ces photos du massacre. On ne sait pas combien de milliers de morts il y a eu. Par d'au moins 3000, 4000. L'autre chose, c'est que je tenais... Alors, on n'a pas montré l'ensemble de la séquence vidéo du petit manifestant qui a arrêté les tanks. Mais ça me semblait important de la montrer. Déjà, on n'a jamais vu la colonne de tanks. Hein, c'est ce qu'on voit au début. Hein, ce n'est pas un tank. Ça, et ça me semblait... Je trouve cette séquence absolument hallucinante, évidemment, et ça me semblait important. C'est une façon de réfléchir par rapport aussi à ce que sont les photos, hein, qu'on connaît de ce moment. Pour information, il y avait quatre photographes et trois caméramans sur le balcon, ce même balcon du même hôtel. À Pékin, qui ont enregistré cette scène. Et ça, c'est une version qu'on a fini par récupérer. Je pense qu'elle a été rachetée, en fait, par CNN. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle un peu de ce que je viens de vous montrer, de ces questions... autour de l'information. Autre chose, vous avez pu le voir, il y a des photographes qui ont fait la grève de la faim, les étudiants, les photographes qui ont photographié ça. Un photographe étranger ne pouvait pas avoir accès aux grévistes de la faim, ils étaient protégés au centre de la place par leurs camarades. Donc, voilà. Donc, ça... Et pourtant, cette grève de la faim était le symbole le plus fort de cette révolte étudiante. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des envies de discuter sur certains points que j'ai évoqués. Voilà, je crois que c'est un micro, c'est plus. Ça a été très compliqué. La plupart de ces photos ont été publiées. Beaucoup de ces photos ont été publiées, pas en Libération. Pas mal ont été achetées par Paris Match, par Stern, par Independent en Angleterre. Je ne vais pas revenir sur un épisode douloureux avec les États-Unis, où elles ne sont pas parues. Ce n'est pas la faute de la presse, c'est la faute de quelqu'un qui a travaillé aux États-Unis. Après, il y a eu une suite à ça, qui est, pour nous, essentiel pour l'agence, je vous explique pourquoi, et c'était essentiel pour l'information. Suite à Tiananmen, on ne sait pas combien de dizaines, peut-être de centaines de milliers, d'exécutions il y a eu en Chine. C'était des exécutions publiques. Il se trouve qu'un des photographes avec qui on travaillait, qui était en province, était un grand malin, était en province, il avait des bonnes relations avec la police. C'est-à-dire qu'il y avait un studio commercial. Et de temps en temps, l'armée, la police, pour des choses importantes, qui passaient des commandes. Alors, exécution de contre-révolutionnaires suite à la révolte étudiante, c'est un événement important. Il faut édifier les foules. Donc, il y a eu une commande, et il a emporté deux boîtiers. Il faisait la commande en noir et blanc pour l'armée, et il a fait de la couleur pour lui. Et puis, il a donné un peu d'argent à un copain militaire. Il a récupéré les négatifs noir et blanc et il a fait un jeu de tirage noir et blanc. 6 mois après, un journaliste de Paris Match, avec qui on était en relation, est allé le voir. Je lui avais donné les contacts. Il est allé le voir. Et il lui a confié une enveloppe avec ses photos des exécutions. Et Pierre Huret, c'est le journaliste de Paris Match, nous a appelé, nous a rapporté ça en nous disant. Le photographe veut que vous publiez ça tout de suite. Veut que ce soit publié tout de suite. C'était évidemment un immense scoop, hein, c'est, du point de vue de l'information. J'ai refusé de publier les photos, faire publier les photos tant qu'on n'avait pas réussi à faire sortir le photographe de Chine. Je dois dire qu'il y en a d'autres hein, qu'on a fait sortir de Chine. Et là, il y a quelque chose, je veux quand même, je tiens toujours à remercier très précisément, c'est Michel Vauzel, qui était à l'époque ancien bras droit de François Mitterrand à l'Élysée, hein, qui était à l'époque président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, et il a aidé à l'accueil de tous les photographes chinois qu'on a fait sortir, qui ont eu des papiers immédiatement, et dont certains ont même eu la nationalité française très vite. Et c'était important. J'ai attendu donc que ce photographe soit sorti de Chine. Il est sorti, il a voulu venir seul, mais je ne fais pas assez, mais ça, je pensais qu'il vienne avec son épouse et sa fille, mais il est venu seul, disant je suis en province, ils ne sauront jamais d'où ça vient, etc., etc. Après, ça a été deux choses, ça a été des choix éditoriaux. J'ai décidé, mais ça voulait dire aussi perdre beaucoup d'argent, mais enfin, j'ai décidé de publier en Angleterre dans The Independent Magazine et pas dans le Sunday Times. C'était 3 fois moins d'argent, mais bon. En Allemagne, dans Stern. En France, ça a été Paris Match, parce que c'était Roger Théron. On s'est engueulé pendant 15 jours. C'est pas sur l'argent, il a rajouté de l'argent, une élégance qu'il pouvait avoir, avec cette phrase quand même, c'est juste hein, d'ailleurs, mais qui m'a pas mal traumatisé à l'époque, parce que finalement il a fait 5 pages dans le match. Là j'étais dans une colère folle. J'ai appelé, j'ai dit, c'est pas possible. Hein. Et il m'a répondu, tu feras une facture pour 10 pages, mais tu devrais me remercier de consacrer 5 pages à ça. Je ne vendrai pas un exemplaire de plus. Voilà. Mais il les a publiés. Après, ça a été... ça a été publié dans le monde entier. Et je dis que ça a été aussi très important pour l'agence. Je dois dire que cette année-là, ça a économiquement sauvé l'agence du, mais vraiment sauvé l'agence du. Et 10 jours après la première publication, la police a débarqué chez la, a débarqué dans la famille du photographe, a emprisonné sa femme et sa fille. Et c'est parce qu'il a eu la nationalité française que l'ambassade de France a pu intervenir et qu'elles ont pu venir en France. Et ils sont toujours en France. Voilà. et lui pas. Et ce sont les seuls documents photographiques qui existent, ils vont ressortir, hein, là, je pense, sur les élections en Chine après Tiananmen.
Bonsoir. Là, on voit une époque où c'était compliqué de faire sortir des images d'événements comme ceux-ci. Aujourd'hui, on est, dès qu'il se passe quelque chose, on est bombardé d'images. Et c'est quoi votre regard, du coup, sur comment traiter les images aujourd'hui de ce genre d'événements? Moi, quand je vois ces images-là, forcément, ça me fait écho à ce qui se passe, même si dans d'autres mesures, mais sur l'actualité en France, sur les événements où l'armée peut intervenir, la police, les photographes qui travaillent dessus, c'est compliqué aussi pour eux, parce qu'en plus, il y a plein d'autres gens qui font des photos. Donc, comment montrer des événements aujourd'hui, que ce soit en France ou à travers le monde? Je sais que Guillaume Herbault disait qu'aujourd'hui, le photographe, c'est presque d'en montrer moins et de suggérer plutôt que de tout montrer. Donc, le métier a énormément évolué. Et vous qui suivez de près, quand même, je pense, ces évolutions, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur aujourd'hui, en fait?
Je crois que... Je pense deux choses. Je pense qu'il faut faire très très attention à ce qui se passe, en tout cas dans le domaine d'information, avec ce qui a permis ça. D'abord, une chose qui pour moi est extrêmement claire et que je refuse, on parle de démocratisation parce que tout le monde aujourd'hui peut être producteur d'images. Je trouve que c'est une escroquerie intellectuelle. Il y a une chose absolument formidable, c'est que tout le monde a effectivement la possibilité de produire aujourd'hui des images. Soit dit en passant, certes, on n'a jamais créé autant d'images, on n'a jamais détruit autant aussi près du moment de la prise de vue. Et il ne peut pas y avoir démocratisation dans la mesure où il n'y a pas de connaissance de l'image. Où il n'y a pas de connaissance culturelle, d'éducation vraiment à l'image. Donc il n'y a pas de démocratisation. Il y a une production énorme et des pratiques par ailleurs pas inintéressantes et souvent ludiques de l'image. Dès qu'on passe au champ de l'information, on se trouve confronté à deux problèmes. Il y a d'une part, mais il y a toujours eu ça. Moi, quand je travaillais à Libération, il y avait toujours deux temps dans le travail. Il y avait, je dirais, un moment qui était purement photographique. C'est le moment où je décidais de faire travailler, de passer une commande à tel photographe, puis je reste à l'autre. Ça, c'est photographique. Je choisissais un regard. Et après, il y avait le moment où j'allais publier. Et là, pour moi, le photographe n'existait plus. Sauf que je devais le respecter. Celui qui existait, c'était le lecteur. Je devais réfléchir, essayer de maîtriser la production de sens en direction du lecteur. Donc, pour un professionnel de l'information aujourd'hui, premier problème avec ce flou d'image numérique qui arrive un peu partout, la première problème du sourçage. Sourçage, vérification d'informations, etc. C'est lourd. Il y a des gens qui le font très bien. Il y a des outils, il y a des gens qui le font très bien. Et il y a, l'AFP le fait remarquablement, par exemple. La collecte d'images qu'ils font, Reuters également. Mais c'est une chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus, de fait, en relation directe aux producteurs d'images. hein, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. La seconde conséquence, elle est pour les photographes. Je pense effectivement que le métier a changé et que il a changé, il doit encore changer, sauf pour les salariés de trois structures, hein, Agence France Presse, Reuters et AP. Les photographes sont obligés d'être plus photographes, je dirais, que jamais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se contenter d'appuyer, d'enregistrer, de ramasser des documents. Ils doivent avoir un projet, ou des projets. Ils doivent avoir un point de vue. Et effectivement, ils ont bien raison. Ça veut dire moins d'images, vraisemblablement, mais une organisation des choses, un discours beaucoup plus clair. Où ça coince, c'est que il y a ça, et il y a des gens qui le font absolument remarquablement. Bon, ces 10 dernières années, la photographie, ce n'est pas de la photographie de presse, ce n'est pas de la photographie d'actualité, mais la photographie documentaire est devenue plus riche que jamais dans le monde entier. Où ça coince, c'est qu'il n'y a pas les supports pour la publier. Et que sur Internet, on n'a pas encore trouvé ni la forme, ni le modèle économique pour le faire. Et ça, un peu, c'est très étrange. J'ai l'impression, depuis 10 ans, moi j'ai parlé de ça avec mes étudiants dès 2002, ça fait 15 ans. J'ai l'impression qu'on est toujours entre deux. On reste encore entre deux systèmes, deux modèles, etc. Alors, c'est lié au fait qu'on n'a aussi aucune visibilité sur ce que va devenir ou pas l'imprimé. Je veux dire que c'est spectaculaire. Le groupe Lagardère qui vend tous ses magazines dans le monde entier. Enfin, c'est tout d'un coup, comme ça. On voit combien de titres de l'ancien groupe Philippe Bassi ont été vendus, sont en vente, etc. Bon, ça va devenir quoi? Qui vont être les acteurs, hein, voilà, et ça, c'est... ça, c'est évidemment extrêmement important pour les photographes, parce que une des grandes faiblesses de la photographie, c'est ça, sans vecteur, elle n'existe pas. Sans vecteur, ça n'existe pas.
Pour moi, faire un petit témoignage personnel, ça a été, je pense, la plus belle période de ma vie en tant que photographe, de travailler avec Christian et l'agence Vue. Parce que chaque photographe était respecté et je considère Christian un peu comme un explorateur de photographes. Parce que c'est vrai que pendant toute sa vie, à l'époque où j'étais à l'agence, à chaque fois, il nous parlait de nouveaux photographes. Il disait, j'ai pas le temps de te voir là, j'ai rendez-vous avec... Et je trouve que c'est très important, en fait, ce qu'il a dit sur l'histoire du photographe chinois, enfin, des photographes chinois en général, parce que, c'était leur révolution. Il y en a même certains qui, après le massacre, se sont battus. Alors, je dirais pas qui, mais... Et en même temps, c'est très important l'histoire du photographe qui a réussi à faire ses photos d'exécution et que Christian a refusé de publier tant qu'il n'était pas sorti. Parce que je pense que lui, de Chine, ne se rendait pas vraiment compte, mais il faut savoir que Christian lui a quand même sauvé la vie. Puisque quand il a réussi à sortir de Chine et que sa famille a été arrêtée, il a très vite appris qu'il était condamné à mort en Chine. Et qu'il était hors de question qu'un jour, je pense encore aujourd'hui, qu'ils remettent Les pieds en Chine, c'était le seul photographe qui a fait ça. Il y avait juste un autre qui avait fait quelques photos d'exécution, mais c'était un policier. Donc forcément, quand les autorités chinoises ont vu ces photos, ça pouvait être que lui, quoi. Donc je pense que c'est, en plus, voilà, je ne vais pas lui en faire trop, mais je pense qu'il a une déontologie que certains devraient apprendre, et encore plus aujourd'hui peut-être.
Merci Manu, mais juste pour préciser quand même une chose, pour vous rendre compte de ce que c'était pour ces photographes chinois. Les photos de la nuit du massacre, que j'ai récupérées il y a un mois, elles ont été faites par des photographes chinois. C'est un de mes meilleurs amis. Cette fois, j'ai sorti de Chine après sa mère. J'ai habité pendant 3 ans chez moi. C'est arrivé, il parlait pas un mot de français. Au bout de 3 mois, il parlait français couramment. Il y a 6 ans, la dernière fois que je suis allé à Pétain, chez lui, il m'a dit, on va placer Nanmen. Je veux y aller avec toi. Bon. C'est là qu'il m'a dit, on maintiendra après. Hein. Tu sais, j'ai fait les photos de la nuit du massacre. Je pense que c'était, à part les flics, c'est le seul. Je ne sais pas comment il a fait. Et il vient à peine de me les montrer, de me les donner. C'est juste pour vous montrer ce que ça peut être comme poids. Hein, dans, je dis, c'est leur révolution. Enfin, c'était leur révolution et ça a été leur, leur drame. Voilà, c'est tout comme ça. Et on connaît un photographe qui a pris le train à Shanghai. Dès qu'il a appris qu'il avait été à la main, il partait avec son vélo, parti de Shanghai pour rejoindre les étudiants. Passer la main, c'est des choses qu'on n'arrive pas à imaginer. Ces images sont là. Et, voilà, moi, je dois dire que j'ai une reconnaissance et une admiration énorme pour, voilà, pour ces choses-là. Puisque tu parlais de découvrir des photographes, je voulais vous montrer quand même quelques images, quelques choses, parce que ça, vous ne pouvez pas les trouver. C'est des photographes cambodgiens. Celui-ci, c'est un survivant. Hein. Il avait 5 ans. Pas 30, je ne sais plus. En 75, quand les Khmers rouges sont rentrés dans Phnom Penh et ont vidé en 4 jours une ville où il y avait 1,5 million d'habitants. Imaginez ce que ça signifie en 3 jours. Ça, je veux dire, vider en 3 jours une ville d'un 1,5 million d'habitants. Hein. Ils leur disaient, les Américains vont attaquer, vous partez pour 3 jours, on n'emportez rien. Voilà, vous verrez, c'est la dernière séquence. Ce photographe, c'est mon premier étudiant à Phnom Penh, 97, je ne sais plus. Il est correspondant de l'agence DPA et tous les 2 ans ou 3 ans, il fait un sujet personnel. Voilà. J'ai envie de vous montrer ça. Je vais vous en montrer 4 des photographes cambodgiens. Lisez bien ce proverbe. Et c'est fait quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ce n'est pas fait avec Photoshop. Hein, c'est fait avec des poissons et des fourmis.
Mmh.
est en train de préparer les quatre éléments. Il a fait l'eau et le feu. Son traumatisme d'enfant, hein, c'est, il est totalement obsédé par la préservation de la nature dans un pays où elle est très en danger. Ça, c'est la série sur l'eau. On voit très clairement sa formation de peintre. Hein, c'est, pour l'anecdote, c'est effectivement la peinture à l'huile qui est jetée sur la surface de l'eau. Voilà, 40 ans après, il a réussi à surmonter le traumatisme et à reconstituer les souvenirs de l'évacuation de Phnom Penh quand il était enfant. Il s'est fait avec des papiers découpés et de la fumée de noix de coco. Mon chéri, tu vas être exposé dans une galerie à Paris au mois de mai, là, passé du 15 mai, ou du 7 mai, je crois. Cette dernière série, la plus récente, que tout le monde a exposé au dernier festival. Parce que le festival de Phnom Penh va fêter sa 10e édition. Là. Et donc, ça raconte comment elle était un enfant chasseur, il adorait ça. Et aujourd'hui, il dit qu'il ne faut pas chasser les oiseaux, il faut les photographier. Il a fait ça entièrement en ombre. Évidemment, c'est des travaux qui le changent des conférences de presse du Premier ministre qu'il est obligé de faire quotidiennement pour son agence. Voilà, donc ça, c'est Marc Remisal, qui est le vétéran et le survivant. La génération suivante, c'était née après les années 80, enfin dans les années 80, en 1986. Ça n'était pas connu les Khmer Rouges, mais qui, voilà, c'est un morflé. Lui, son père a été enlevé par d'anciens Khmer Rouges quand il avait 2 ans. Parce que les Khmer Rouges ont été Phnom Penh en 79, mais sont devenus des bandits de grand chemin un peu partout dans le pays. Et donc, ça a commencé par de la photographie documentaire. Ça, c'est une ancienne chapelle catholique qui a été transformée en immeuble d'habitation. Voilà, le soutien qu'il y avait du gouvernement l'a offert aux orphelins à la fin de la guerre. Et donc, ils ont construit des petits appartes à l'intérieur, des cloisons, des étages. Donc, il est allé documenter le quotidien de ces gens, qui sont tous très différents. Et puis, il est passé assez vite à autre chose. Il a travaillé pendant 4 ans pour le meilleur quotidien cambodgien, mais il a très vite dit c'est pas mon truc, c'est pas pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Et il est absolument obsédé par la lumière. C'est étonnant, vous allez voir, là, les deux prochaines séries sont complètement sur la lumière. Vous voyez, déjà, dans mon travail, c'était plus journalistique et c'est beaucoup attaché à des détails, à de la forme. Il cherchait déjà autre chose. Je dirais que c'est l'abandon pour lui de la photographie documentaire, un très joli petit sujet sur la chasse aux criquets, très bien traité. Thank you. C'est très bon. C'est très riche en protéines, au point qu'on en élève et on en exporte. Voilà, vous êtes obsédé par la lumière. Il fait ses portraits en les éclairant avec l'écran de son ordinateur portable sur lequel il n'y a rien. Donc, ces gens ont des espèces d'absence d'expression absolument étonnantes. Il est en train de terminer cette série, tu vas donner un livre. Donc, il rééclaire tout avec le phare de sa moto. Bon, les villes sont très sombres, hein, les villes cambodgiennes.
I'm a rabbit in your headlights. Don't come to visit. I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves. She laughs when she's crying. She cries when she's laughing. Fat blood.
Terminer avec la toute jeune génération, avec un petit blogueur qui s'appelle Titit et qui ne se définit pas comme photographe. Voilà, alors lui, ce ne sont que des autoportraits, je crois que j'ai marqué quelque part. La raison, hein, c'est que s'il devait trouver un modèle à chaque fois qu'il a une idée, il n'arriverait pas à s'en sortir. Donc c'est toujours lui qui... C'est pratique. Il y a plein d'autres. Tout ça sera exposé et projeté pendant tout l'été à Marseille, à la Friche la Belle de Mai. C'est l'exposition qui est en train de se terminer là à Mulhouse dans une semaine. Voilà, ça c'est tout de suite. Vous allez voir, il provoque en même temps, il est extrêmement sérieux. Hein. Il aborde des thèmes qui, entre autres, le suicide, le sexe, etc., qui posent évidemment problème, encore plus dans un pays bouddhiste. J'ai de très bonnes relations avec la ministre de la Culture, qui m'a demandé le jour du vernissage de décrocher certaines images. Ce que j'ai pas fait, mais elle me l'a demandé quand même. J'aimerais bien que tu aies dit ce t-shirt. Quand même très bon acteur. Hein. Alors pour la projection, ça va, mais trop mieux. Il ne sait rien par rapport à la technique, etc. Il y a plein de photos que je ne peux pas exposer parce que les fichiers, ils pèsent 2 mégas. Ils sont impraticables. Mais bon. Alors on projette. On fait des murs, ça, avec plein de cases différentes. Et puis on projette. De toute façon, quand j'ai fait sa première exposition, je lui ai demandé si j'étais très content. J'étais content, il m'a dit, oui, je suis content, c'est sympa. Mais enfin, il y a moins de gens qui seront ça que ceux qui voient mon blog. D'accord. Bon. C'est vrai, hein, il a raison. Donc, voilà. Il y en aurait plein d'autres à vous montrer, mais il est... Le temps a tourné. Voilà, c'est les questions. Je suis prêt à répondre à toutes celles auxquelles je pourrais répondre.
Merci. Oui, j'ai une question sur justement les montages, les diaporamas que vous faites. C'est encore une écriture. À quoi êtes-vous attentif? Comment vous les pensez? On a vu des montages sur fond sonore d'information avec une durée donc précise. On a vu des montages sur lesquels vous mettez une musique. J'aimerais voilà savoir comment alors, vous écrivez ça.
Là, on a vu deux choses et j'en pratique une troisième. J'ai pas la plus, ce serait trop long. La première, effectivement, c'est remettre en forme de l'information. Donc, le choix au niveau du texte, on n'a pas voulu... Alors, vous avez vu, on a fait des textes très brefs pour marquer les dates. Et on a un son un peu obsédant en soutien, mais on est allé rechercher des sons d'archives de CNN et de télé française pour accompagner les images, etc. Pour les Cambodgiens, il y en a 24 comme ça, hein, des petites projections qui accompagnent l'exposition de 5 des photographes. Là, je les ai conçus comme des diaporamas classiques. J'ai fait l'ordre des images et j'ai demandé à un Cambodgien de faire le montage et de mettre les musiques qu'ils avaient envie de mettre. Voilà, c'était... malheureusement, à Marseille, j'ai pas assez d'espace. À Mulhouse, il y a des choses au mur, et il y a une pièce où on peut s'asseoir avec uniquement la projection. Donc chaque photographe a son son. Là, on n'est pas tombé sur du cambodgien, mais bon, c'est comme ça. Il y a une autre chose que je fais, on en parlait tout à l'heure, que j'aime bien, en fait, que j'ai commencé à travailler après avoir travaillé avec Nan Goldin. C'est l'exposition projetée. Alors, l'exposition projetée, moi j'adore ça, parce que ça permet de présenter bien les choses dans des lieux où il n'y a pas de salle d'exposition, mais c'est un boulot colossal. C'est un boulot colossal parce que il faut réussir à déterminer la longueur de chaque image. Et ça, c'est absolument infernal. Mais d'une certaine manière, c'est pas plus infernal que de déterminer les formats pour une exposition, etc. Mais malgré tout, moi j'avais vu, ça m'avait beaucoup frappé, à Biennale de Sao Paulo, un artiste belge, Michel François, qui extraordinaire. En gros, il n'avait pas donné l'espace qui jouait ça. Il avait fait une projection, des photos noires et blancs, une face à la chambre. Et il les avait gardées chacune une minute et demie. Et c'était une vraie expo, quoi. Sauf que c'était une expo, on vous obligeait à rester une minute et demie devant chaque image. Et c'est pas mal, je dois dire. Mais ça m'a rappelé, j'avais travaillé avec Agnès Varda sur la série Une minute pour une image. Évidemment, Agnès n'avait trouvé personne dans les télés pour produire. Donc, si elle savait produire, on faisait ça dans son salon. Hein. Y a aucune télé qui voulait accepter l'idée qu'on pouvait supporter une photo pendant une minute sur un écran. Et finalement, FR3 a accepté, juste avant le journal, ou à la fin du journal, de passer la série, et ça a très bien marché. Et après, le CNP l'a publié sous forme de DVD. Alors après, une question, c'est extrêmement difficile, c'est celle de la musique, du son, etc. Est-ce que il y a l'un qui devient plus important que l'autre, ou j'aime bien certaines projections dans le silence absolu, mais il faut que ça ait un sens aussi, hein. Mais si on met du son, on apporte un autre discours. Toujours pareil, c'est d'éviter que les choses se luttent, quoi. Et aller vers la même chose avec les deux éléments, quoi. Les différents éléments. Mais il n'y a pas de raid, hein. Je veux dire, c'est aussi en faisant que on recommence, on se dit ça marche pas, on ne sait pas très bien pourquoi ça ne marche pas. Et puis on refait, et puis on change l'ordre, et puis. J'ai pas de solution miracle. Heureusement, je crois d'ailleurs. Sinon.
Et justement, sur les diaporamas, est-ce que les photographes, des fois, travaillent avec vous pour monter faire cette création, parce que c'est quand même, ça crée quelque chose, un objet différent, ou est-ce qu'ils vous laissent complètement poser justement votre regard, parce que ça donnera des choses très différentes aussi, quoi.
Là, ça dépend. Ce que je peux vous dire, par exemple, les Chinois, c'est évident que On a fait. Les photographes cambodgiens, je leur ai à tous demandé une sélection de photos. Après, il est arrivé de la discute, que j'en demande plus, que j'en enlève. Enfin, c'était une espèce de dialogue. Quand les photographes sont là, je vois par exemple, on fait chaque année beaucoup de projections à 7, une soirée, on travaille avec les photographes. Ça, quand ils sont disponibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord. Hein. C'est. Il y a certains photographes. C'est comme les éditeurs. Il y a des photographes qui ne sont pas des bons éditeurs de leur travail. Mais ouais, c'est comme ça. Il y a. La question de la mise en forme, pour moi, d'une certaine manière, ce n'est pas si important que ça, savoir qui fait la mise en forme définitive. Ce qui est important, pour moi, c'est de savoir ce que veut dire le photographe. Parce que je sais faire. C'est-à-dire que je peux fabriquer des choses avec des images. Mais les photographies sont terriblement imprécises. Je peux avec l'ordre, avec la musique, etc., presque leur faire dire le contraire de ce que voudrait faire le photographe. C'est d'ailleurs pas très différent de ce qui peut se passer ou ce qui s'est passé dans la presse. Il suffit d'une légende qui dise le contraire. Et c'est pas l'image photographique elle-même qui peut m'apporter un démenti. Elle n'est pas capable. Donc, c'est pas nature. Donc, la chose importante, par contre, c'est de ne pas se planter sur ce que veut le photographe. Ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, on peut en discuter, on peut être en désaccord avec son photographe sur, son analyse de certaines choses. Ça m'est arrivé, évidemment. Mais après, ça se discute. Je pense que ça marche mieux là, cette image avant celle-ci, etc. C'est de la fabrication, ça, c'est plus. Je sais pas, par exemple, sur un. Sur quelque chose qu'on projette, la première image et la dernière image, elles sont essentielles, de toute façon. Bon. Ça m'est arrivé combien de fois de dire à un photographe, tu aurais la scène en premier et en dernier. Après, je m'occupe du reste et je te fais une proposition. Je suis prêt à accepter ce que le photographe me dit, je voudrais celle-ci en premier, celle-ci en dernier, s'il me le justifie. Pas parce que c'est l'image qu'il préfère, parce que celui qui regarde, il va partir en emportant ça, il va emporter quoi ? C'est ça que je veux essayer de savoir.
Bonsoir. Christian Cogol, vous parlez beaucoup de textes, enfin de photographie, c'est super intéressant. Et j'adore d'ailleurs vos sélections et tout. Mais je voulais faire un petit pas de côté et parler du texte. Vous êtes connu quand même aussi pour vos entretiens, pour les textes sur les photographies. Et sur les photographes, et je voulais revenir sur le titre un peu de la conférence qui est « Circonstances particulières ». Je l'ai lu, vous parlez beaucoup de Phnom Penh, et dans la première histoire, il y a l'histoire, par exemple, de Sun. Quel est le rapport entre la photographie, le photographe et le texte que vous écrivez, par exemple, dans cet ouvrage ?
Alors, « Circonstances particulières », c'est deux livres. Un, c'est des nouvelles. c'est des fictions, dans lesquelles la photographie est toujours un personnage. Ça, c'est juste un jeu littéraire. C'est un personnage, c'est une histoire. C'est des histoires que j'ai inventées. Mais il y a toujours une photographie qui est un personnage qui va servir à organiser le récit. L'autre, il s'appelle Souvenir, ce sont des... Je raconte ce qui m'est arrivé avec des photographies particulières. Quand je les ai publiées dans Libération, dans un livre, quand je les ai vues dans une exposition, etc. C'était un peu pour essayer de faire percevoir justement que la perception qu'on a d'une photographie, elle dépend du contexte dans lequel on la reçoit. C'est un peu autour de ça. Alors ça va d'histoires qui moi aujourd'hui me font rire, mais c'est à l'époque qui ne m'ont pas fait rire. Quand Xavier Dambourg fait le portrait de Lionel Jospin, c'était ministre de l'Éducation, c'est à la fin de l'entretien, déjà il n'y avait pas de photographe prévu, Jospin enlève ses lunettes, Xavier, hop, on profite, fait le portrait, c'est la meilleure image du... des six qu'il a dû faire, je choisis ça, je mets en grand, il y avait une double page d'entretien, c'est en grand. Le lendemain matin, Serge Juvy se fait insulter par Jospin directement, moi j'ai responsable de com, je me fais traiter de tous les noms, parce que on nous accuse d'avoir voulu ridiculiser Jospin, d'avoir publié une photo où personne ne le reconnaît parce qu'il n'a pas ses lunettes. Voilà. C'est une façon de parler de comment on perçoit une image selon où on se trouve, comment... voilà, c'est un peu autour de ces choses-là que j'ai voulu faire ce livre. Et ça me permet de raconter certaines anecdotes, justement... et avec des photographes, et avec des lecteurs, c'est un peu ça l'idée. Et c'était aussi une espèce de plaisir d'écriture, sans aucune contingence par rapport à... tu écris une préface, il faut que tu te limites à 3200 signes, parce que sinon on va perdre une double page d'image, enfin, toi. Bah, je faisais ce que je voulais. Il y aura peut-être d'autres.
Bonjour. Je voulais revenir au début de la présentation, quand vous avez présenté les photographes en Chine, en expliquant que toutes les photos, sinon, étaient faites par des photographes américains, français, allemands et anglais. Et du coup, une différence essentielle, c'était ceux qui faisaient les photos, les photographes qui faisaient leurs photos de leur environnement, enfin, qui étaient directement sur place. Moi, je trouve ça, enfin, ça m'a interpellé. Je voulais juste savoir si vous aviez un peu plus à développer sur ce sujet. Quelle différence vous mettez entre le photographe qui va passer, même si on passe longtemps, on va découvrir un environnement X ou Y, et par rapport au photographe qui vit sur place et qui fait des photos.
Alors, il y a déjà des choses bêtes, hein, je veux dire basiques. C'est on a accès à des choses auxquelles l'étranger ne va pas avoir accès. L'autre chose, c'est je pense, on a accès parce qu'on parle la langue, parce que dans le cas précis, hein, parce qu'on est étudiant. Il y a des photographes qui étaient étudiants. Il y a un photographe qui sortait des Beaux-Arts de Pékin. Et donc, il était copain avec les gens qui ont fait la déesse de la démocratie. Et il est allé avec eux. Enfin, voilà, chose les photographes étrangers n'ont pas pu rentrer à l'Université des Beaux-Arts pendant la construction de la démocratie. Enfin, c'est des choses comme ça, hein, des choses aussi bêtes que ça. Après, je vous donnerai un autre exemple, un exemple historique. L'autre chose, c'est que je pense qu'il y a une compréhension différente de certaines choses visuelles. Une chose qui me frappe dans les photos faites par les photographes chinois sur Tiananmen, j'ai regardé beaucoup de séquences télé sur Tiananmen, justement pour me préparer tout ça. J'étais frappé par une chose. Les télés, ça a été vrai aussi des photographes, ont beaucoup insisté sur le côté massif de sur la foule d'elle-même. Ce qui est un des vieux clichés photographiques dans la perception de l'Asie. Hein, c'est toujours la foule asiatique. Ça. Si vous regardez les photos des photographes chinois, il y a très très souvent des individus. Et même des gens seuls, et même. Je pense que c'est une autre approche. Je voulais citer pour la réflexion, c'était un autre cas, c'est historique. Je respecte tout à fait le travail de Scapa sur la guerre d'Espagne, hein, même si on a perdu une partie d'ailleurs de ce travail, dont une partie est dans un syndicat au Pays Basque espagnol, syndicat qui ne veut pas le rendre. Il y a pas mal de choses. Mais le travail le plus important sur la guerre d'Espagne, il a été fait, en tout cas sur la partie disons catalane, il a été fait par un photographe catalan qui a fait l'exode avec les républicains pour arriver juste dans les Pyrénées orientales, juste dans les temps, et qu'on a remis en avant il y a à peine une petite dizaine d'années. Et c'est le travail le plus intéressant photographiquement. Et après, j'ai pas envie de dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. Mais je pense que si on avait la possibilité, au moins au niveau de l'exposition, confronter ces regards, ça aura un sens. La question n'est pas celle de je préfère, j'aime, je préfère, c'est plus. C'est là. Non. Est-ce qu'il y a deux points de vue? Il y a forcément deux situations. Je veux dire, moi, je me suis retrouvé comme reporter dans des situations. Des situations de guerre en Amérique centrale. Je sais que je ne trouverai pas ça de la même manière que les collègues salvadoriens.
Le photographe, du coup, est aussi acteur de l'action, du coup, en plus d'être juste le regardeur. Enfin, c'est un peu ça que.
Je pense. Enfin, le photographe local, il. J'ai parti de ce moment d'histoire. Eux, ils en faisaient partie. Ils ne sont pas extérieurs. Ça me fait penser à un travail que j'aime beaucoup d'un photographe russe. Alors, c'est un travail social, ça n'a rien à voir avec l'actualité. Dmitri Markov travaille avec un iPhone en format carré, des teintes très douces, sur. Des enfants des rues, sur la drogue, etc. C'est son histoire. C'est l'histoire qu'il a vécu enfant, qu'il retrouve aujourd'hui chez d'autres. Il est en même temps éducateur. C'est peut-être regrettable, mais je ne pense pas que ce soit des bons sentiments que ce soit des bonnes photos. Et je pense qu'il faut toujours tenir compte de ce que sont les gens, parce que les photographies, elles sont pas faites par les appareils, elles sont faites par des gens. Des gens en chair, en os, avec des histoires personnelles, avec des sentiments, avec des cultures, avec des points de vue. Moi, je suis maintenant tombé dans l'Asie, mais je sais que je serai toujours un étranger. Et je dois dire que je suis tombé dans l'Asie parce que parce que je ne comprenais pas cette culture. Parce qu'elle m'était étrangère, qu'elle m'intriguait, et parce qu'elle m'intéressait, et parce qu'elle avait produit parmi les choses que j'aime le plus au niveau de la sculpture. Et ça m'intriguait. Mais, voilà, c'est. Je crois qu'il faut vraiment avoir toujours ça en tête. Les photographies sont faites par des individus. C'est des choses subjectives. Et quand elles sont importantes, quand elles sont sincères, elles sont faites avec toute la culture qu'ont les gens. Et donc, ça ne peut pas être pareil d'être chinois, d'être français. Ou encore moins américain.
En plus, je crois que sur les événements de Tiananmen, la plupart des photographes occidentaux, quasiment tous, avaient en tête, quand ils font des photos, cette photo, voilà, elle est vendable pour tel journal. Ça peut faire la une de Time, ça peut faire ci. Bon, c'est quand même très cliché, quoi. Donc les photographes chinois, c'était pas leur problème. Ils étaient effarés qu'il y ait autant de photographes étrangers en Chine, et donc ils ne travaillaient pas du tout dans la même perspective. Bon, l'agence Vue, on avait la chance de faire un peu quand même, enfin d'avoir carte blanche. Je veux dire, la plupart des photographes qui étaient là-bas, c'était vraiment pour vendre un maximum de photos, et donc ils n'étaient pas du tout, dès le départ, le rapport était faussé. C'était pas, voilà, et ce que Christian a dit aussi sur la fabrication de la statue de la liberté sur la place Tiananmen. Pendant la grève de la faim, il y a deux photos en noir et blanc que je trouve superbes. Et c'est le photographe dont parlait Christian, qui sortait juste de l'école des beaux-arts de Pékin, qui au début n'osait pas montrer ses photographies en disant oh, « Une agence photo va s'intéresser à moi en France ». Mais ce n'est pas possible, il ne se rendait pas compte en fait. Et du coup, voilà, pour moi, les images ont été beaucoup plus marquantes que des photos bien faites, ce qu'expliquait Christian, mais en fait beaucoup plus classiques. Qu'est-ce qu'on a pu voir?
Oui, tu as raison de souligner ces photos. On ne sait plus du tout d'ailleurs où il est. Ces portraits très doux des grévistes de la faim avec le bandeau en noir et blanc, ils sont magnifiques. Bah, je me souviens du jour où j'ai reçu ces petits tirages 9-13, reçu cette enveloppe. Hein, c'est un émerveillement qu'un photographe fasse ça dans ces conditions. Et voilà, et alors, ça par contre, sur le moment, ça n'a intéressé aucun journal, hein, soyons bien clair. Mais on a fait un livre après, on a fait des expos, etc. Mais je trouvais ça absolument extraordinaire. C'est une espèce d'approche tellement tendre, tellement respectueuse, et c'était très beau.
Bien, merci beaucoup Christian Cojol. Merci Manuel Vimenet, j'en profite pour te remercier parce que c'est grâce à toi. Et donc rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau cycle. Merci. Enfin, la rentrée, en fait, je dis l'année prochaine parce que je fonctionne comme les scolaires.